France Culture.
Donc on est d'accord, je commence à tourner et je n'arrête plus.
Ouais, vas-y, vas-y.
Ça fait longtemps, hein? On va pas travailler comme ça un peu, je suis sur les caissiers. Mais c'est très bon pour nous, ça. Sachant que j'ai personnellement craqué sur la crêpe Nutella.
Ça sentira comme ici.
Magnifique.
France Culture.
Bonjour, je suis Marie.
Bon ben, bienvenue.
Merci beaucoup. Trop bien.
Le Book Club.
C'est
la parade
de Lucienne Rose.
Ouais. À une heure près, c'était le monde de soleil.
Wow.
C'est l'heure un peu.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est chouette.
Dans la bibliothèque de Mathieu Bogart.
Par contre, j'imagine que vous n'avez pas de batterie dans votre salon comme moi.
Non.
Voilà.
Et je le regrette d'une certaine manière.
On va juste prouver que j'ai une batterie chez moi. Voilà, dans le salon.
Et un punching ball.
Marie Richeux.
Faut pas m'énerver.
Allez, même si c'est étrange à penser, on raconte que Mathieu Bogart fête en 2025 ses 30 ans de carrière. Le premier album solo s'appelait Super et depuis, sa musique tient la promesse, c'est super. Parfois superbe, d'émotions ramassées, de génie d'écriture et de groove. On y trouve l'amour, la vie, la ville, les briques, les maisons, les endroits solides comme les endroits de guingois. Ça penche, ça danse, ça avance, ça stagne, ça désire, ça ondule, la vie quoi. Quand il nous reçoit chez lui, il dit que son obsession de la précision et de l'épure n'a pas tant à voir avec ses lectures qu'avec le son. La composition organique qui fait que c'est parce que ça sonne que ça finit par faire sens. On va déballer sa bibliothèque à 3 étages avec des livres d'abord et avant tout là pour assouvir son immense curiosité. Y apprendre quelque chose, c'est être tout à fait changé. Et pendant ce temps-là, le ciel va passer de rose à bleu nuit. Ce soir-là, son dernier disque Grand Piano venait de sortir. Il en était particulièrement ravi. La conversation pouvait commencer de virevolter.
D'accord. Donc là, nous sommes enregistrés. Alors oui, j'ai pris le parti. Enfin, j'ai accepté votre proposition de vous inviter chez moi. Donc, à partir du moment où vous passez cette porte, je n'ai plus rien à cacher. Ou si j'avais des choses à cacher, je l'aurais fait avant votre arrivée.
Non, c'est fait.
Voilà, c'est fait, tout à fait. Voilà. Il y a peu de livres ici, et il y a, comme il y a peu de choses en général, parce que j'ai une tendance à toujours. J'aime le vide, j'aime le silence, j'aime le rien. Alors, j'aime aussi des choses, mais donc les livres que j'ai lus et que je pense que je ne relirai pas, je les enlève. Les vêtements que je ne porte plus, je prends.
C'est
le cas d'un peu tout. Donc c'est le goût de la gestion du volume, la gestion des choses. Donc j'ai 2 endroits où j'ai des livres.
Allez. Ça y est, c'est la promenade.
Alors, j'allume la lumière. Je présume que j'ai moins de livres chez moi que chez vous, Marie Richeux.
Je présume. Ben, ça dépend. Est-ce que c'est la totalité des livres?
Non, c'est la moitié.
Eh bien, oui.
Oui.
J'ai plus de livres. Mais j'essaye de tendre vers votre goût du.
L'épure.
Voilà,
ok. Alors, je classe tout, moi.
C'est pas évident comme ça quand on regarde.
Alors j'aime bien que les choses soient classées en général.
Je classe tout,
j'ai besoin de ça, sinon je. Et puis quand ça va mal, je reclasse tout et je re-reclasse tout. Donc là nous avons 3 étagères. En haut, nous avons que 2 livres sur Paris, histoire de Paris, enfin principalement. Il y a aussi un livre sur l'histoire de Londres, mais il y a 15 de livres sur Paris et 1 livre sur Londres. Je suis très très curieux de manière générale, donc forcément l'endroit dans lequel je vis, dans lequel j'ai en partie grandi. M'intéresse pourquoi il y a cet immeuble, pourquoi cet immeuble est-il comme ça, pourquoi celui-ci est autrement, c'est quoi cette église, quelle était la réalité de ce quartier avant que j'y sois. Il m'est même arrivé d'imaginer tous les gens, toutes les familles qu'on peut vivre dans cet appartement dans lequel je suis, qui est l'appartement du début du XXe siècle. Mmh. C'est assez fascinant de se dire qu'il y avait des familles qui ont eu d'autres. Tout ça. Alors, j'ai pas la réponse, je sais pas qui vivait ici à 120 ans, mais j'essaie de trouver un élément de réponse dans des livres sur l'histoire de Paris. Que je consulte assez régulièrement, mais j'oublie toujours 90% de ce que j'apprends.
J'ai grandi à Paris, c'est-à-dire ?
J'ai grandi à Nogent-sur-Marne, donc c'est pas très loin.
C'est pas Paris ?
C'est pas Paris, tout à fait. Je suis arrivé à Paris à 20 ans et j'ai vraiment eu l'impression de m'émanciper, de monter à Paris, même si j'étais vraiment à 3 km.
Ouais.
Alors, j'ai pas autant de livres sur Nogent-sur-Marne que j'en ai sur Paris, mais je dois en avoir quelques-uns quand même, ou en tout cas un. Donc, il n'y a pas de raison particulière pourquoi ces livres sont dans l'étagère du haut. Alors c'est peut-être inconsciemment, ça a un sens, mais je ne classe pas au point de me dire bon, les livres sur Paris, je les mets en haut parce que ça commence par P. D'ailleurs, si c'était par ordre alphabétique, ça serait par en haut parce que P, c'est déjà. Voilà.
C'est déjà bien avancé. Est-ce que ça veut dire que vous l'aimez, cette ville?
Oui, passionnément. Alors j'aime pas. Il y a des jours, j'aime pas Paris. Comme tous les Parisiens, j'aime et je déteste Paris, mais globalement, j'adore.
Mais le fond, c'est quand même.
Oui, et puis le fait d'avoir vécu, j'ai eu la chance de vivre à Londres 5 ans. Il a fallu que je vive à Londres 5 ans pour me percevoir à quel point. Je savais que Paris. J'ai eu la chance de faire tour du monde, donc j'ai été dans beaucoup d'endroits. Mais Paris, ça reste exceptionnel. Et pas parce qu'il y a les immeubles haussmanniens et qu'il y a Notre-Dame et machin. C'est pas. Déjà, c'est la capitale la plus dense d'Europe, comme vous le savez tous.
Bah, nous n'avons pas 18 livres sur Paris en haut de notre étagère.
Ouais. Et c'est un truc intéressant que les Parisiens ne savent pas vraiment.
La densité.
C'est 20 000 habitants au kilomètre carré. Et la capitale en dessous. Celle qui se trouve en dessous dans le classement, c'est 10 000. Et c'est une des 3-4 capitales au monde. Il y a quand même 210 pays, la plus dense. Donc c'est vivre à Paris, on ne se rend pas compte, mais c'est exceptionnel, alors au bon sens et au mauvais sens du terme. En tout cas, c'est une ville normale. Si un extraterrestre arrive sur Terre, on lui dit « Montrez-moi une capitale normale, c'est pas Paris qu'on va lui montrer. » Voilà.
Paris, c'est trop.
Alors en tout cas, c'est marrant parce que j'avais lu un truc, je ne sais plus très bien, je ne suis pas assez documenté, mais... Quel espace faut-il par habitant pour s'épanouir? Combien de mètres carrés faut-il par individu pour s'épanouir? Et c'est bien au-delà de ce dont on peut disposer à Paris. Ce qui expliquerait peut-être la tension des Parisiens, l'agressivité légendaire des Parisiens. Peut-être, je me suis dit, si on prenait tous les Londoniens, on les mettait à Paris pendant un an, et tous les Parisiens à Londres pendant un an, ça serait intéressant de voir comment deviennent les Londoniens.
Ouh, l'énergie! Parce qu'on peut dire nervosité, mais on peut aussi dire énergie qu'on sent dans cette ville.
Oui, énergie. Moi, ce que j'adore, c'est sa densité produit des choses extraordinaires. C'est qu'il y a un café à chaque coin de rue, c'est qu'on marche, c'est un grand village. Il se passe toujours quelque chose. Je suis très curieux, donc je passe beaucoup de temps à me balader à Paris. Et à chaque fois, on s'en donne les moyens, on va toujours découvrir quelque chose. Un magasin, un restaurant, une petite place, une statue, un immeuble, une curiosité. Et ça, c'est assez exceptionnel.
Mais depuis quand vous lisez sur Paris? Parce que c'est pas pareil d'aimer sa ville et puis carrément de se documenter sur sa ville.
Alors, je m'en souviens pas exactement, mais j'ai un élément de réponse. C'est que j'ai... Donc moi, j'ai été vraiment mauvais à l'école. J'ai redoublé ma 6e, 5e, 4e. Enfin,
doublé.
Je devais redoubler ma 6e, mes parents m'ont fait passer un 5e. Je devais redoubler ma 5e, je l'ai redoublé. Je devais la tripler, on m'a fait passer. Je devais redoubler ma 4e, je suis passé en privé. Je devais redoubler ma 3e, je l'ai redoublé. Et j'ai arrêté en seconde, voilà. Donc je suis sorti de l'école un peu...
Crevé. Franchement, à un moment donné, c'est beaucoup de mouvements.
Crevé, et puis un peu frustré finalement de... Je voulais pas que
apprentissage.
Voilà, s'arrête là. Je me suis pas dit, bon, j'arrête l'école en seconde, donc c'est fini, j'arrête d'apprendre des choses. Bien au contraire, je pense que ça a généré chez moi une frustration et une envie d'apprendre plein de choses, donc peut-être que ma curiosité est née de ça, que j'ai arrêté l'école tôt, je sais pas. Et j'ai fait une interview à Besançon en 1995, pour une radio, je ne sais plus quoi, et en cadeau, parce qu'il y avait un cadeau, on m'a offert un livre un peu grand public, avec chaque double page relatait un événement du XXe siècle, donc c'était chronologique. Et j'ai dévoré ce livre et j'ai eu l'impression de comprendre, pas le monde, mais en tout cas vraiment d'apprendre plein de choses. Donc c'est vraiment, ça parle de tout, 36, machin, avec la guerre, les trucs, enfin tout. Et ça a vraiment éveillé ma curiosité. Et plus on sait de choses, plus on s'aperçoit qu'on sait rien et qu'on a envie d'en savoir plus, enfin, en ce qui me concerne. Donc je pense que c'est déjà ce livre dont je viens de vous parler qui a éveillé ma curiosité, l'histoire en général.
Deuxième étagère,
ce sont des livres en rapport avec la musique. Alors... que je consulte finalement assez rarement. À part une collection que j'aime bien, qui est... On peut faire de la publicité ici?
Bien sûr.
D'accord.
On est là pour ça.
Ok. Une collection de...
Le mot et le reste.
Voilà. Que vous connaissez.
Sur la musique. Comme vous, rien.
Voilà, d'accord.
Rien.
Voilà, donc ça, c'est des livres qui... Voilà, en l'occurrence, il y en a un, c'est Easy Listening. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur l'Easy Listening, avec des références, des documents. Et j'ai aussi Africa 100, voilà, 100 disques indispensables, entre guillemets, africains. Voilà, les 1001 œuvres classiques qu'il faut avoir écoutées dans la vie, avant de mourir. Voilà.
Rassin, ça a 100 ans.
Voilà, mais c'est, en fait, j'ai pas trop lu ces livres qu'on m'a offerts, que j'ai un peu glanés par ici, par là. Sauf, bien sûr, le Beatles Anthology, parce que, voilà.
Et c'est quoi ?
Beatles Anthology, c'est un livre qui date de 1995, si je ne m'abuse.
Décidément.
Voilà. Et
95.
Tout à fait, voilà.
Quelle année ?
Voilà. Et en fait, ils ont, c'est à leur initiative, ils ont fait tout un documentaire qui dure de mémoire 7-8 heures, accompagné d'un livre avec des archives, une espèce de, voilà, d'historique des Beatles, mais vraiment creusé. Et par exemple, les deux premières heures, c'est les Beatles avant qu'ils soient signés dans une maison de disques. Donc c'est vraiment, ça les suit depuis leur adolescence jusqu'à la fin des Beatles, associé à ce livre. Et donc les Beatles, comme c'est une des plus belles histoires du XXe siècle, j'ai forcément ce livre que j'ai lu et relu. Mmh. Et à côté, il y a les Beatles Recording Sessions. Donc là, c'est vraiment un truc de... Donc ça, c'est vraiment le truc de fan absolu, mais que j'ai finalement... Oui, mais que j'ai finalement assez peu lu. C'est chaque chanson, quel jour ça a été enregistré, à quelle heure ça commence, machin. Voilà. Bon, après,
c'est vrai, vous croyez ?
Enfin, je veux dire, pour aller à ce point-là dans le détail, enfin, je trouve ça extraordinaire d'avoir... Ça a éveillé ma curiosité, je l'ai acheté, mais c'est vrai que finalement, là, pour le coup, si vous me faites une interro sur, là-dessus, j'ai moins les réponses.
Ça me rend assez curieuse quand même, parce que je me dis que ça veut dire qu'eux-mêmes l'ont noté.
Non, parce que dans un studio de professionnel,
c'est marqué. Quand est-ce que tu...
Voilà. En fin de journée, on écrit. Enfin, non, dans un studio professionnel et encore et surtout en Angleterre dans les années 60, il y avait quelqu'un avec une cravate qui notait. Voilà, aujourd'hui, on a enregistré ça sur la bande numéro 12 qui est rangée à tel endroit.
Ok.
Voilà. Mais ce n'est pas un des livres que j'ai choisi pour aujourd'hui.
Non.
Mais j'aurais pu parce qu'en fait. Ça a été difficile de faire un choix. J'ai pris le parti de ne pas me prendre la tête, fermer les guillemets, parce que voilà.
Bah, sinon, c'est
j'ai les cinq premiers qui me sont venus.
C'est bon, je rangerai. Alors, c'est mon tour de galérer. Ouais. Troisième étage.
En dessous, cinéma. Et puis à droite, le livre d'art. Mais bon, en fait, je lis très très peu ces livres. Enfin, c'est les livres qu'on a envie d'acheter, on tombe dessus dans une brocante. Puis finalement, on le consulte assez peu. Et si jamais je devais... Voilà, si vous me disiez... C'est pas ce que vous m'avez dit, mais... Ah là, il faut que tu gardes que 20 livres. Ça serait pas grave. Ça serait pas grave.
Ok.
Voilà.
Alors, c'est là où étaient les livres, chez vous. C'est là où sont les livres, je veux dire.
C'est là où sont la moitié des livres.
Et l'autre moitié est dans un endroit qu'on visitera pas. Si. Non.
Ça n'a pas grand intérêt.
Non, ok.
C'est d'accord. C'est des livres près de mon lit. C'est plus des romans, on va dire. Mais les romans, une fois que je les ai lus, je les jette. Même, je sais que
jeter. C'est...
Enfin, je les jette, pardon. Je m'en débarrasse.
Okay.
Voilà. Non, je les jette.
Je sais que ça...
Je serais insupportable si j'avais une batterie, je pense.
Je sais que ça heurte des gens.
Non, pas du tout.
Enfin, ça heurte, je m'en fous. Enfin, moi, je meurs. C'est-à-dire que je corne les livres. Si je dois écrire un numéro de téléphone sur le livre, j'ai pas dit à des gens, mais ah, tu touches, c'est sacré, touche pas le livre, machin. Ce qui n'est absolument pas mon cas.
Très bien. Donc moi, je suis là.
Ce matin, je me réveille. Je me dis que c'est beau la vie quand même quand j'y pense. Je regarde le soleil. Je me dis quand même que c'est bien l'existence, même si je sais pas le sens. J'ai de la chance. Je ne suis pas mort, pas mort encore. Je vis toujours ici dehors, oui ici dehors. Il fait jour, bon bah alors, je savoure. Ce matin je me réveille, je me dis que c'est beau la vie quand même quand j'y pense. Je regarde le soleil, je me dis quand même que c'est bien l'existence, même si je sais pas le sens, j'ai de la chance. Y a de la lumière, y a de la chaleur, et là sur la terre. Ça fait battre mon cœur, ça fait battre mon cœur. C'est tellement fort, non, faut pas que je meure. Pas encore. Ce matin, je me réveille, je me dis que c'est beau la vie quand même quand j'y pense. Je regarde le soleil, je me dis quand même que c'est bien l'existence, même si je sais pas le sens. J'ai de la chance, car j'ai des jambes, j'ai des bras. Tous les membres, pas que cela, deux oreilles et dix doigts, dire que je me réveille avec tout ça. Mmh.
quand même que c'est bien l'existence, même si je sais pas le sens. J'aime de la chance.
France Culture.
Oui, quand j'y réfléchis.
Le Book Club.
C'est bien mieux que rien.
Dans la bibliothèque de Mathieu Bogartz. Marie Richeux.
Donc, là, il est l'heure du deuxième moment de cette émission où nous faisons des lectures. Des lectures d'extraits des textes. Il y aura un mimosa entre nous. Que vous avez choisi pour nous.
Okay.
Ce choix s'est fait selon la logique de « je ne vais pas me prendre la tête ».
Fermez les guillemets.
Fermez les guillemets, mais avec soin normal.
Le plus difficile a été, je m'en suis aperçu, de trouver le passage.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai, comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas relu les livres, parce qu'il y a quand même, c'est, en tout, ça fait, je ne sais pas, 2500 pages. Donc, même si je prends cette émission très au sérieux, parce que je suis très flatté d'être sur cette antenne que j'écoute moi-même beaucoup... J'allais pas relire 2000 pages avant. Voilà.
Pour vos yeux.
Voilà. Je veux dire, sympa, mais.
Voilà. C'est du taf.
Ok.
Alors, donc, manifestement, vous commencez par Eben.
Tout à fait. Premier choix, c'est la première idée qui m'est venue. C'est comme ça que j'aborde cette émission. Je vais donner les 5 premiers qui me sont venus dans l'ordre. Donc, c'est un Polonais, Richard. Il semblerait qu'en Pologne, on dit Richard. Enfin,
Richard.
En
tout cas,
je pense que c'est Richard en français. Kapuściński. Quel passage ? Eh bien, le début. Le début, le choc. Ghana, 1958. Premier choc, la lumière. De la lumière partout. Intense, vive. Du soleil partout. Hier encore, l'ombre dégoulinant sous une pluie d'automne. Un avion ruisselant d'eau, un vent froid et les ténèbres. Ici, dès le matin, l'aéroport baigne dans le soleil. Nous baignons tous dans le soleil. Autrefois, lorsque les gens traversaient le monde à pied, à cheval ou en bateau, ils avaient le temps de s'accoutumer au changement. Les images de la Terre défilaient sous leurs yeux lentement, le film du monde tournait tout doucement. Comme leur voyage durait des semaines, des mois, ils se familiarisaient progressivement à l'environnement, au paysage nouveau. Le climat, lui aussi, changeait par étapes. Avant d'atteindre la fournaise équatoriale, le voyageur venu de la froide Europe avait déjà traversé la douceur de Las Palmas, la canicule d'El Mahari et l'enfer du Cap-Vert. Que reste-t-il aujourd'hui de cette gradation ? Rien. L'avion nous arrache violemment de la neige et du gel pour nous plonger le jour même dans le gouffre des flammes tropicales. Nous avons à peine le temps de nous retourner que nous nous retrouvons au cœur d'un brasier humide. Dès notre arrivée, nous sommes en nage. Si nous quittons l'Europe en hiver, nous jetons manteau et pull. Voilà le geste initiatique que nous, les gens du Nord, exécutons en débarquant en Afrique. Les gens du Nord. Vous rendez-vous compte que les gens du Nord sont en train de devenir nettement minoritaires sur notre planète. Canadiens, Polonais, Lituaniens, Scandinaves, Américains pour partie, Allemands, Russes, Écossais, Lapons, Esquimaux, Yakoutes. La liste n'est pas si longue, je me demande même si elle englobe plus de 500 millions d'hommes, moins de 10% de la population mondiale. En revanche, la majorité écrasante de l'humanité vit dans la chaleur, passe sa vie au soleil. D'ailleurs, l'homme n'est-il pas né au soleil ? Ces traces les plus anciennes n'ont-elles pas été retrouvées dans les pays chauds ? Quel était le climat du paradis biblique ? Toujours chaud, pour ne pas dire caniculaire, au point qu'Adam et Ève vivaient nus, ignorant le froid même à l'ombre d'un arbre.
Ce choix, Mathieu Bogartz.
C'est un livre que j'ai lu au moins 5 fois, je pense. Déjà, en préambule d'une réponse, je peux dire que je ne sais pas pourquoi j'aime les choses en général. Je sais plus pourquoi je ne les aime pas que pourquoi je les aime. Pourquoi j'aime telle musique, pourquoi je préfère manger des pommes que des kiwis. À chaque fois qu'on me pose la question, parce que j'ai l'occasion de faire des interviews, je ne sais pas pourquoi je préfère ce disque à un autre. Donc,
vous ne savez pas pourquoi, par exemple, la chair du kiwi et le petit truc acidulé que ça provoque dans la bouche, qui crée de la salive, qui est trop agréable et tout ça. Vous savez pas que c'est ça que vous aimez ?
Non.
Ok.
En tout cas, je sais pas pourquoi je préfère ça qu'autre chose.
Okay. Oui.
Donc à chaque fois, j'ai un peu l'air con, je dis « Ah bah j'aime bien, j'ai fait une émission il y a quelques temps où il fallait choisir 20 disques, donc j'ai choisi. Puis à chaque fois que le disque était fini, il fallait que j'argumente. Et ben, en dehors de dire « Oh j'adore », je me trouvais un petit peu bon. » Donc là, je sens que ça va être pareil, mais c'est pas grave. Donc là, ça me touche beaucoup. J'ai eu la chance de faire le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans à peu près la moitié des pays d'Afrique. Et donc, ça, le début de ce livre me connecte tout à fait à des sensations déjà connues de sortir d'un avion, effectivement. Donc, ça, c'est très émouvant parce que ça me reconnecte avec des souvenirs précieux. Voilà. Première chose. Deuxième chose, comme je l'ai évoqué, je suis très curieux. Et là, j'apprends, en fait, je réalise que, effectivement, a priori, 10% de l'humanité vivrait dans le froid ou dans des climats tempérés comme nous, occidentaux. Mais que l'immense majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité, vivrait dans le soleil, dans la chaleur. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé. Et j'ai une jouissance intellectuelle d'apprendre ça. Donc mon rapport au monde, d'un seul coup, change parce que j'ai une donnée qui vient se greffer à ce que je sais déjà. Et j'adore cette sensation.
Déjà, on peut dire quand même, après vous avoir écouté parler de lecture depuis le début, que le fait que dans les livres, il y a de la connaissance... Et quelque chose de très important dans votre rapport au livre. Que, en fait, dans les livres, il y a manière d'assouvir votre curiosité. Ça fait plusieurs fois que ça revient.
Tout à fait. Et d'ailleurs, sur les 5 livres que j'ai choisis, il n'y a aucune fiction. Ce ne sont que des essais ou des livres d'histoire. Voilà. Donc, je ne remets pas en question... je ne suis pas en train de dire qu'un essai, c'est mieux qu'un roman. Et c'est vrai que je m'évade plus. En fait, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de me connecter à d'autres réalités. J'adore ça. Donc c'est pour ça que j'aime me balader dans Paris, par exemple. Mais c'est aussi pour ça que j'aime lire un livre d'histoire, de me connecter à une réalité, une autre réalité dans le temps ou dans l'espace. C'est un peu ce que je vais chercher.
C'est un livre de 58, le livre de Kapuscinski, donc il dépeint aussi quand même des pays africains qui ont changé, qui n'avaient même peut-être pas la même allure que quand vous les avez visités. Est-ce que ça vous intéresse de lire au moment où vous bougez? Est-ce que dans ce tour du monde que vous avez mentionné deux fois, est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous redoubliez votre expérience vivante par des choses que vous lisiez à ce moment-là?
Alors j'aime bien quand je pars à l'étranger, pour le coup, de prendre des romans qui se passent plus ou moins où je vais. C'est juste pour être un peu baigné dans le truc. Alors c'est pas un livre exclusivement de 58. En fait, Richard... En tout cas, R-Y-S-Z-A-R-D, je vous laisse le prononcer chez vous. Kapuscinski est donc un correspondant polonais qui a vécu 30 ou 40 ans, je ne sais plus, en Afrique noire, pour des journaux polonais. Donc. Et donc, il a couvert tout un tas d'événements historiques, des indépendances, le Biafra, le machin, Amin Dada, tout un tas d'événements en Afrique. Et donc ce livre, c'est un peu une compilation de ces articles et aussi un... Voilà, c'est ça. Donc en l'occurrence, là j'ai commencé par le début du livre, c'est en 58, mais à la fin c'est plutôt dans les années 80 ou 90. Ah. Voilà. J'aime beaucoup ce livre, c'est un livre que j'ai offert. Voilà, quand on aime un livre et qu'on... Et moi j'ai du mal à lire, enfin, ça peut m'ennuyer de lire, je fatigue assez vite. Donc quand on m'offre un livre, c'est toujours un peu pénible parce que c'est un cadeau empoisonné, parce que ça va m'épuiser de le lire. Et rares sont les livres qui m'épuisent pas. Et celui-ci ne m'a pas épuisé, bien au contraire.
Ça a quoi comme place, la lecture, dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Quotidienne ou pas du tout quotidienne, justement?
Bah je lis avant de dormir. Voilà, c'est le moment que je
Tous les jours?
Oui. Mais ça va entre une demi-page entre une demi-page et 30 pages. Mm-hmm. Mais c'est plutôt... pas une demi-page, mais ça peut être 3 pages. Je fatigue, je m'endors. Donc finalement, je lis très lentement. Je me dis même que j'arrive pas à dormir sans lire. Et par exemple, quand je suis dans un hôtel et que j'ai oublié de prendre un livre, je suis bien emmerdé, donc je descends dans le hall et je prends un magazine à la con, n'importe quoi, pour avoir quelques lignes à lire, vraiment. Mmh. Alors je pourrais certainement m'endormir sans lire, mais j'ai pris cette habitude et au même titre que je mets des bouchons d'oreilles, eh bien je lis quelques lignes. Il a pu m'arriver de lire des notices de télévision, par exemple.
Juste pour aller vers le sommeil. Voilà. Et pourquoi pas? Le deuxième choix. Votre deuxième choix, c'est quoi?
Deuxième choix.
Vous avez dit dans l'ordre d'apparition.
Alors, je crois que c'était ça.
Ok.
Éric Rohmer. Donc là, c'est une biographie d'Antoine de Beck et Noël Herp. Donc, j'ai pioché ce livre dans mon étagère rangée cinéma, donc en bas à gauche, pour ceux qui s'en souviennent. Éric Rohmer. Alors, j'aime le cinéma, j'adore le cinéma. Le cinéma me passionne, le cinéma me fascine. Moi, je suis donc auteur, compositeur, interprète. Je pense que mon fantasme ultime serait de réaliser un long métrage, enfin d'écrire, de réaliser un long métrage. Mais je suis tellement perfectionniste et je me noie tellement dans les détails lorsqu'il est question d'enregistrer un disque, que j'ai peur de mourir, mourir à faire un long métrage, tant ça multiplier par 100 au minimum. Donc pour l'instant, je ne me suis pas donné les moyens de faire ça, mais voilà. Donc je suis fasciné par les réalisateurs, je suis fasciné par ce monde-là, j'adore. Et Eric Rohmer, donc ça peut faire un peu le mec de 54 ans qui parle de vieux films. Enfin, j'aime aussi le cinéma contemporain, je ne m'accroche pas que aux vieux films, entre guillemets. Mais c'est vrai que je trouve ça me touche particulièrement. Je trouve ça très, très juste, très précis, tout en étant très modeste et en fait très dense et très... Donc voilà, il y a une économie et une densité dans les dialogues, dans les situations, dans la précision de la mise en scène qui me touche.
Voilà. Comment vous découvrez le cinéma d'Éric Rohmer ?
Alors je le découvre à Bruxelles. J'ai eu la chance de vivre 2 ans à Bruxelles il y a une petite quinzaine d'années. Et pour moi, Éric Rohmer, c'était chiant. Enfin, j'avais dû voir un extrait. Donc j'associais ça à un truc chiant. Puis par curiosité, dans un vidéoclub, j'en ai pris un. C'était Le Beau Mariage. Et je suis resté... Enfin, j'ai adoré ce film, voilà. Donc, quand j'aime bien, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est... J'ai adoré, voilà. et du coup, j'en ai vu un par jour pendant 20 jours. Il y a à peu près une vingtaine de films ou 25 films. Et j'adore ça. En général, quand j'aime quelque chose, j'aime bien vraiment me faire 10 jours de film coréen, 10 jours de je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai fait Éric Rohmer pendant un mois. Et j'étais bien triste à la fin du dernier de ne plus en avoir. Donc je me suis refait cette même série peut-être 10 ans plus tard, voilà.
Et vous dites oui, le cinéma d'Éric Rohmer me fascine, ou la figure du réalisateur me fascine, mais par exemple c'est pour ça que vous aimez lire une biographie, c'est que la vie de qui est derrière, la vie de qui fabrique, ça vous intéresse ?
Eh ben non, en général c'est un truc, je me fous. Si j'apprends un truc, je vais pas fermer les oreilles, mais je distingue l'œuvre de l'artiste. Ce livre, on a dû me l'offrir. Je sais plus qui, quand. Et donc, je crois même pas l'avoir lu en entier parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est très précis, c'est très bien écrit. Et d'ailleurs, je me permets de dire que, à quel point je pense savoir écrire des chansons, mais je ne sais pas écrire, je ne pourrais pas écrire une biographie de quelqu'un. Le choix des adjectifs, la précision enfin, c'est vraiment deux métiers distincts. Enfin, j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait, mais c'est.
Bah non, dites-le parce que c'est intéressant. Okay. C'est-à-dire.
Autant je suis très précis quand j'écris des chansons, vraiment je pèse mes mots, c'est très précis. Mais c'est pas au service de la même chose, c'est au service de formuler des sentiments, et c'est associé à une mélodie et de la musique, donc le texte n'est pas censé se suffire en soi, il est aussi en phase avec de la musique, donc voilà, donc c'est pas le même langage. Et il m'est arrivé il y a quelques temps, on m'a dit, ça serait bien que tu écrives pour tel bouquin ou je sais plus quoi. Un truc sur Bob Marley, un truc sur James Brown. Et c'était hyper difficile d'être précis, machin. Enfin, c'est pas du tout le même. Et je m'aperçois qu'en termes que les adjectifs me viennent pas forcément. Enfin, après, quand je les comprends. Je vois la nuance, la subtilité des mots. Mais ils ne me viennent pas comme ça. Les mots vont plus me venir aussi par leur son quand je fais de la musique. Alors que quand on écrit un livre sur Éric Rohmer, même si on a envie que ça sonne, c'est vraiment secondaire. On est plus sur la précision du. Enfin. Et puis il y a des faits à relater, donc c'est autre chose. Donc c'est pas un livre que j'ai à tout prix voulu avoir, il est arrivé dans ma vie, et je l'ai lu en partie. Et quand j'ai regardé ma bibliothèque avant de cet entretien, je suis tombé dessus, je fais « bon, Éric Rohmer, oui ». Voilà.
Alors, vous avez choisi un passage.
J'ai choisi. C'était.
Il est tout petit ce livre, non ? C'est mes lunettes qui sont... Et comment il est organisé ?
Alors justement, c'est chronologique, mais c'est pas film par film. C'est justement, il associe des films à
des épisodes de sa vie.
Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est écrire un livre comme ça, c'est impossible tellement. Enfin, je sais pas. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de faits associés à des films. Donc après, c'est aussi l'avis de l'auteur, dire tiens, j'associe à tel moment il lui arrivait ça. On peut revoir ça dans ce film. On trouve. Bon, c'est toute une interprétation. Ok, donc là, contrairement au premier livre, je ne commence pas à la page au début, je suis à la page 227. Et c'est l'époque 1966-1972. La résistance du réel. Si L'amour l'après-midi est une autobiographie fantasmée de Rohmer, c'est aussi une autocritique et la plus lucide qui soit. Le metteur en scène s'y représente sous les traits d'un petit bourgeois, le dénommé Frédéric, qui mène une existence bien réglée entre sa femme, ses enfants et son bureau. qui s'entoure de jolies secrétaires qui passent des après-midi de plus en plus amoureuses avec une belle paumée appelée Chloé, jusqu'au moment où il prend peur et revient in extremis au foyer conjugal. Comment ne pas y voir une chronique presque transparente de la vie quotidienne de Romer ? Quoiqu'un peu plus âgé que son personnage, lui aussi est un jeune marié qui élève deux petits garçons. Lui aussi a fondé sa boîte, les films du Losange, avec un associé qui joue à l'écran, Daniel Secaldi. Lui aussi, et c'est là le principal, partage son temps entre les soirées familiales, le travail au bureau et les moments creux. Ce qu'il passe dans les transports en commun, à s'inventer des aventures. Ou qu'il consacre l'après-midi à discuter autour d'une tasse de thé avec des jeunes comédiennes plus ou moins virtuelles. D'un côté, la vie réelle, sous le nom de Maurice Scherrer, avec tout son poids de tendresse, de fidélité et d'obligation. De l'autre, la vie rêvée, sous le signe d'Éric Rohmer, où l'adolescence se prolonge au gré des rencontres féminines, sans que cela puisse jamais tirer à conséquence, et sans que ces deux courbes parallèles aient le moindre droit de se croiser. Ouvrez les guillemets.
Tu n'as jamais rêvé vivre deux vies en même temps et simultanément, mais d'une manière complète et parfaite?
C'est impossible.
C'est un rêve.
Ce dialogue entre Frédéric et Chloé inaugure un thème qui traversera toute l'œuvre à venir de Rohmer. Jusqu'alors, la question cruciale, et qui le restera jusqu'au bout, était celle du choix. Françoise ou Maude, Laura ou Claire, à partir de L'amour l'après-midi, elle s'accompagne d'une utopie du dédoublement que déclineront Les nuits de la pleine lune ou Triple agent, un espoir fou d'échapper aux limites de la conjugalité, de l'identité, comme si l'on pouvait être plusieurs personnes à la fois.
Vous voulez nous dire pourquoi vous avez choisi ce passage-là en particulier de la biographie d'Éric Rohmer ?
Alors, comme je l'ai dit, j'insiste, j'ai pas tout relu et j'ai pas élu ce passage parmi 500 autres. Mmh. Voilà. Mais ce passage m'a plu parce que la dualité, voilà, la maman, la pute, enfin, en étant. Voilà, tout à fait. Ça me cause, ça fait écho à des dualités que je peux avoir aussi. Enfin, je sais pas, j'ai senti une connexion et je trouve ça bien dit. Et il cite des films que j'adore, en l'occurrence Les Nuits de la Pleine Lune, qui est mon film préféré, qui est dans mon top 10 des films ever, pour parler français.
Et moi, ça me fait penser à la chanson Noémie de votre dernier disque et à des adresses comme ça de jeux qu'on pourrait jouer. Des jeux amoureux, des rôles. Ça me fait aussi penser à une chanson que je ne retrouve pas, que j'adore, qui cite Should I Stay or Should I Go ?
Annie, ouais.
Elle s'appelle Annie, ouais. Noémie et Annie. Des espèces de figures dont on ne sait jamais dans la voix du chanteur-narrateur si elles sont réelles ou pas, mais peu importe, qui sont des élans comme ça, un peu des élans de désir et d'amour, et qui est une thématique qui est quand même présente dans vos disques, Mathieu Bogartz.
Présente, il y a plusieurs thèmes récurrents, même si je ne suis pas très objectif là-dessus, parce que souvent, j'attends qu'on me dise « Ah, mais ton disque, il parle quand même beaucoup de ça. » Je m'en aperçois des fois a posteriori. Mais effectivement, c'est bien dit. Annie, Noémie, et puis il y en a d'autres. Dans ce petit texte que je viens de lire et dans les films qui étaient évoqués, je retrouve des thèmes et des sentiments qui me traversent et que j'ai déjà traduits en chansons.
Par exemple, des livres comme ça, et le travail de Noël Herp et Antoine Debecq, ça veut dire qu'il y a énormément de documentation. C'est leur travail, oui. C'est des historiens du cinéma, etc. Oui. Vous, quand vous vous lancez dans l'écriture d'un disque, donc on a bien compris que c'est deux métiers différents, mais il n'y a pas du tout de travail de documentation. Vous ne faites pas un travail de notes, où vous ne vous dites pas « ce nouveau disque-là, il va sonner comme ça, ou il va avoir cette direction, et du coup, je vais aller écouter des choses, ou je vais... »
Donc là, vous parlez de musique ou de mots ?
Les deux. De projet, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on se lance dans un livre comme ça, il y a une grande phase de recherche. Ouais. Alors, si je précise ma question, ce serait à quoi correspondrait la recherche pour votre travail à vous, Mathieu Bogartz ?
Moi, c'est une recherche intérieure, c'est-à-dire aller ressentir en moi quelles ont été les sensations et comment je pourrais les formuler au plus près. Donc, c'est plutôt une introspection de... Voilà, quand une chanson me vient, j'ai jamais le projet d'une chanson. Je peux pas me dire « Ah, je vais écrire une chanson là-dessus ». Et je chercherai à me documenter. En fait, la chanson, elle arrive un peu par accident. J'aime beaucoup jouer de la guitare, je gratouille comme ça. Puis au fil des gratouilles, ah, puis il y a un accord que j'avais pas, qui est arrivé comme ça, que je n'avais pas prévu. Il m'excite, il m'émeut. Ah, je m'y attarde un peu. Puis spontanément, je me mets à chanter. Et sort de mon corps des mots. En général, les premières phrases de chacune de mes chansons sont les premières phrases qui sont arrivées. Et cette phrase va tout de suite faire écho à une expérience, à un sentiment, à quelque chose de profond en moi. Et hop, je tiens la chanson. Bon, je sais de quoi je veux parler, le propos, je l'ai senti. Et j'ai déjà la forme, j'ai déjà le style des mots, le champ lexical, le si c'est long, court, le ton, tout est là. Donc c'est une première brique. Et après, le travail, pour répondre à votre question, ça va être de trouver les autres briques, d'être le plus cohérent et le plus juste avec de vibrer avec cette première chose qui est arrivée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, c'est une recherche. Oui, c'est un travail très long. Alors, quand je situe la chanson dans un décor qui serait, que je cite, là, je vais me documenter un peu. Mais un peu. C'est-à-dire, je ne vais pas aller lire 25 livres sur un truc, mais juste pour ne pas dire de conneries, pour pas associer des choses qui ne devraient pas l'être. Mais ça reste 1% du travail, même pas.
Et est-ce que l'écoute d'autres musiques, ça pourrait s'apparenter à un chantier de recherche? Est-ce que, par exemple, tout ce que vous emmagasinez, si vous le faites, si vous écoutez beaucoup de musique, est-ce que ça, c'est ce qui va sédimenter en vous côté son, juste?
Alors, au niveau de la musique, après, c'est... La musique que je fais n'est que la digestion de tout ce que j'ai pu entendre. Mais donc, quand je la fais, au contraire, je ne veux surtout pas savoir d'où ça vient.
Ouais.
Donc, l'exercice qui voudrait que je me mette à écouter un disque des années de je ne sais pas quoi, parce que j'aimerais bien sonner comme ça, c'est absolument tout le contraire que je fais.
C'est plutôt comment ça a été digéré.
Oui, si quand je fais le truc, je prends conscience d'où ça vient, ça me brime. Enfin, j'ai besoin d'avoir l'illusion que ça vient de moi, même si ça ne vient pas de moi, parce que je l'ai... Enfin, ça passe par moi, mais... Donc, pas du tout, non. Je ne veux surtout pas documenter un truc. Après, d'un point de vue plus technique, j'ai besoin d'un percussionniste, parce que je fantasme un genre de percussion. Donc là, pour trouver le percussionniste que j'aimerais rencontrer, ça peut passer par écouter des disques et me dire, tiens, il joue sur tel disque. Donc, à un moment, ça, c'est plutôt pour le casting, comme un cinéaste va aller regarder des films pour caster son comédien ou son costumier.
Et vous écoutez beaucoup de musique?
Alors, j'en écoute surtout quand j'en fais pas. Donc là, mon disque est sorti il y a quelques temps. Je suis sorti de la masterisation. C'est donc l'étape où vraiment on réunit les chansons entre elles. Donc c'est l'ultime étape il y a quelques mois. C'était le 10 octobre 2024 à 17h. Et depuis ce jour-là, enfin, je peux en réécouter vraiment, parce que avant j'étais en train d'en faire. Et quand j'en fais, j'ai toujours peur d'en écouter, par peur de trouver ça trop bien, parce que je suis très fragilisé. Si j'écoute un truc que je trouve trop bien, machin, ça peut complètement me faire perdre confiance en ce que je fais. Voilà, donc ça faisait un bout de temps que j'avais pas vraiment écouté de musique, et depuis donc cette date-là, quelques mois, j'en écoute de nouveau beaucoup, mais c'est un peu au fil des listes de lecture sur les sites d'écoute en ligne. Voilà.
Troisième choix.
Paris, 2000 ans d'histoire.
On dirait le nom d'une vieille émission de radio.
2000 ans d'histoire. Jean Favier. Alors là, c'est ce qu'on appelle un pavé. Vous n'avez pas le livre devant vous, mais il est vraiment bien plus lourd. Je pense qu'il pèse le poids de tous les autres livres réunis.
Ouais. Bon, non.
D'accord. Voilà, donc 1005 pages quand même. Et c'est pas de la page de débutant, hein. C'est de la bonne page bien dense. Donc 1997, voilà, ça c'est pareil. Quelle ambition, quelle énergie, quelle passion faut-il pour se lancer dans un livre comme ça de 1000 pages sur 2000 ans d'histoire de Paris, passant par... Alors, je vous donne les rubriques comme ça, je trouve ça pour donner envie. C'est ce qui m'a donné envie. Les bases. Alors, c'est que des chapitres. La Seine, des îles, des arbres, entrée dans l'histoire, la bataille de Lutèce à Paris. Qu'est-ce qu'un Parisien? Estimation, mortalité, les provinciaux, abandon d'enfants, les Juifs de Paris, étrangers, une île, premières enceintes, je tourne les pages au hasard, les justices, les paroisses, le feu, la monnaie, les ports, les foires, l'urbanisme, les embarras de Paris, Rambuteau, Haussmann.
La fête.
Qu'est-ce que la fête? Le sacre de Napoléon, noces et obsèques, etc., etc. Je n'ai dit que 10% de ce que j'ai sous les yeux. Donc il n'y a pas un chapitre qui ne va pas exciter ma curiosité. Et voilà. Donc là, c'est admirablement documenté, précis, c'est tout ce que j'aime.
Donc là, là-dedans.
Donc là, c'est pareil. Donc, il y a une semaine, à ce temps-là, j'étais sur ce même canapé à me dire, OK, ils seront là dans une semaine. Qu'est-ce que je vais choisir? J'ai tourné là. Allez, les Parisiens. Qu'est-ce qu'un Parisien? Le Parisien est rarement le fruit d'une lignée parisienne. Certains se disent Parisiens de Paris, cela suffit à dire que Parisien ne suffit pas. Le Parisien, c'est celui qui, né ou non à Paris, habite en Paris, se sent Parisien et est pris pour tel en province. La définition est vague, c'est la seule possible. Le Parisien est accablé de bien des qualificatifs. Vaniteux, superficiel, agité. Il se parle lui-même de quelques qualités. Il est au fait de tout, il a l'esprit large, il est en avance sur les autres, il a le goût sûr. De Rabelais à Pagnol, en passant par La Fontaine et Molière, bien des écrivains ont daubé sur le Parisien. De Villon à Fargue et à Carco, en passant par Hugo, d'autres l'ont chanté. Presque aucun de ces écrivains n'est né à Paris. Si l'appellation « la Parisienne » semble réservée à un type de femme, celle de « Parisien » couvre des réalités si différentes que l'éloge et la critique sont possibles dans le même temps. Tel qui, comme Zola ou Proust, caricature une bourgeoisie imbue d'elle-même, ne prétend pas que ses personnages soient représentatifs d'un ensemble. La Sorbonne n'est pas le Parlement, le banquier n'est pas le boutiquier, l'ingénieur n'est pas l'ouvrier. Et l'on connaît mal le Parisien si l'on ignore qu'il tient son quartier pour son village. Il se sent chez lui dans son quartier, à l'étranger ailleurs. On en sait qu'il ne passe jamais les ponts. Cette attitude ne contribue pas peu à la conscience de quartier. Bon, j'arrête là. Donc j'adore une fois de plus parce que c'est documenté, ça m'apprend des choses, ça éveille. J'apprends des choses, j'adore apprendre des choses, mais comme je ne sais plus qui a dit ça, plus on sait, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Et c'est fou parce que j'ai pris conscience, je me suis dit, certains ont certainement pris conscience avant moi et l'ont sûrement écrit, mais que nous sommes quatre dans cette pièce, par exemple. On a chacun un cadre de référence, on a lu certains livres, on a voyagé dans certains pays. Donc on a un rapport à ce monde qui est forcément différent, chacun. Il m'arrive d'apprendre par exemple des choses, des faits historiques. Et un quart d'heure après, je me dis, mais comment j'ai pu vivre sans savoir ça? Et d'un seul coup, tout est remis en perspective et tout est bousculé. Et donc finalement, quand j'ai l'impression que c'est complètement... Il me semble vain de se comprendre. Voilà, je me dis ça des fois. Et puis des fois, je me dis qu'un regard, avec un regard, on se comprend aussi. Voilà, petit aparté. Donc je suis parisien, enfin, mais pas né à Paris. Donc
il est défini comme tel, puisqu'il dit au final un parisien, ouais. C'est bien celui qui se sent parisien.
Tout à fait. Donc c'est vrai que spontanément j'ai dit ça, je me sens parisien. Je ne sais pas quoi ajouter.
Mais vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup dit depuis le début de cet entretien que vous avez aussi beaucoup bougé.
Oui, j'ai eu la chance de vivre un peu à Nairobi, un peu en Suède, un peu à Londres et à Bruxelles. Et je compte, j'espère, vivre encore ailleurs. Et j'ai la chance d'avoir une maison de campagne. Dans la Drôme, dans laquelle je passe un tiers du temps. Donc, je suis pas parisien par ego, machin, et je voyage beaucoup grâce à mes tournées, etc. Donc, mais je reviens à Paris toujours, et c'est tellement un miracle, Paris, que j'ai peur qu'un jour ça n'existe plus. Et forcément, un jour ça n'existera plus. Est-ce que ça sera à cause des problèmes climatiques? Est-ce que ça sera une bombe? Est-ce que ça sera l'érosion? Voilà. Paris n'est pas éternel malgré tout le soin qu'on y porte.
Qu'est-ce qui vous plaît? Non, mais parce que ça m'intéresse qu'on parle tant de l'endroit où on est là, et qu'on parle tant de ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaît de vivre ailleurs alors? Puisque vous dites, ah, j'espère un jour que je vivrai. Et puis c'est pas commun non plus, enfin c'est pas tout le monde qui a vécu à Nairobi, à Bruxelles, à Londres, peut-être c'est un peu plus commun, mais.
En fait, il y a tellement de réalités possibles dans ce monde, tellement de rapports au monde, et je trouve ça. Je me dis, quelle chance on a qu'il y ait plusieurs pays déjà. Ça peut paraître con de dire ça, mais. On prend un train pour Bruxelles, c'est 1h30 de train depuis Paris. On sort et d'un seul coup, c'est un autre monde. Alors, tout est relatif. S'il y a un extraterrestre qui arrive de Neptune, il va dire, ah bah non, c'est le même monde. Mais.
Pas tout à fait.
On rigole pas de la même chose, on mange pas à la même heure, on marche pas de la même chose, de la même façon, on n'a pas les mêmes rapports au vocabulaire, les Wallons ne parlent pas exactement le même français que nous. Et c'est plein de nuances qui font qu'on a, les gens sont pas tristes pareil, sont pas gays pareil, n'ont pas, et je trouve ça tellement, soulageant, et je me dis, ah là là, ça remet à chaque fois en perspective mais nos problèmes, nos trucs. Enfin, je me dis que, heureusement qu'il y a ça. Voilà, donc quand je vais à Bruxelles, je suis un autre homme, le monde change, au même titre que quand je lis un livre d'histoire. Ou quand on voit un film sur Paris dans les années 70, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Place de la République, qui est un documentaire de Louis Malle. Où c'est juste un micro-trottoir Place de la République en 1973. J'habite à 10 minutes de la Place de la République. Et on voit tous ces Parisiens qui sont interrogés comme ça, puis on se dit, mais c'est...
Il leur demande quoi?
ça va, qu'est-ce que vous pensez du bonheur, qu'est-ce que vous faites, des questions assez, comme, assez simples, assez futiles. Et puis il y a des gens qui se prêtent au jeu, qui s'abandonnent comme ça au micro. Et c'est fascinant, j'adore, et c'est toujours très soulageant de me dire qu'il y a d'autres mondes possibles, il y a avant, il y a après, il y a ailleurs. Voilà. Même si je suis convaincu que là, nous sommes dans un immeuble de à peu près 1900, je pense qu'il y a une quarantaine d'appartements dans l'immeuble. Je sais que si je frappe à la porte d'un des voisins au hasard et que je dîne avec lui, je ferai un voyage peut-être encore plus merveilleux que si j'allais à Bruxelles ou si j'allais au bout du monde. Le voyage, il est partout, si tant bien qu'on a envie de le faire.
Voyageons quatrième livre.
Alors, comme je suis un petit rigolo, j'ai choisi un livre de typographie. Donc, un livre de, en théorie, un livre de typographie à la radio, ça passe assez mal.
Mais c'est sans vous connaître.
Voilà, c'est ça. Donc, Letters from M&M Paris. Donc, M&M Paris, c'est un duo de graphistes parisiens. Et j'ai eu la chance de la rencontrer au tout début de ma carrière en 1995, il y a donc 30 ans. Voilà, et depuis, on collabore à chaque fois sur les pochettes de disques. Voilà. Et j'ai une fascination pour leur travail, et une admiration sans borne. Donc là, je vais essayer de décrire ce que j'ai sous les yeux, sachant que c'est pas du texte, ou alors c'est que du A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà la seule chose que je peux lire. Et donc chaque page, c'est des typographies qu'ils ont inventées et déposées. Et je trouve ça merveilleusement... beau, moderne, innovant, poétique, drôle, gracieux.
Ils en ont créé, parce que par exemple, moi je vois celle-ci, c'est peut-être pas celle-ci, mais qui me fait penser à Le Promeneur.
Alors ils en ont créé une pour moi.
Et c'est pas celle-là.
C'est pas celle-ci, mais elle est quelque part, je sais plus quelle page. Voilà, voilà.
Il y a plus de grilles.
Voilà. Donc là, j'ai sous les yeux la pochette de mon disque Promeneur, donc un disque qui a une petite dizaine d'années. Et ils ont effectivement inventé une typographie pour ce disque. Et je sais pas, je trouve ça juste. Alors, ce que j'aime bien dans la typographie, je suis pas du tout graphiste, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a il y a deux choses qui sont confrontées. Il y a de la créativité et un cadre et de l'ordre.
Et de la rigueur.
Et de la rigueur, ouais. Voilà. Ça, c'est avec des photos.
Incroyable.
Ouais, c'est incroyable. C'est avec des. On se donne une charte, un cadre, un langage, et on évolue dans ça. Et en fait, j'adore l'extrême liberté qui se donne et l'extrême rigueur qui contient cette liberté. Et ça donne des choses unique. Et depuis, ce sont devenus des vraies stars du graphisme. Enfin, c'est des stars mondiales, si ce n'est pas les plus grandes stars du graphisme mondial. Et c'est chouette parce que je les ai rencontrés avant, tout ça. Et donc, on a un rapport très, très... très, très intime. Chaque disque donne lieu à des réflexions. Et c'est une chance inouïe d'avoir ces gens brillants qui vont formuler par un geste graphique
des univers.
Des univers, mes chansons qui sont du son et eux, ils font de l'image.
Image à laquelle vous avez toujours été attentif et lié.
Oui, mais c'est normal parce que... Enfin, je trouve ça normal parce que... Parce que la musique que je fais, bah, il faut la vendre. Et comme, donc quand on la vend, forcément, elle est imprimée sur quelque chose. Enfin, j'associe la musique à l'image. Donc bah, du coup, il faut que l'image, elle soit... J'ai pas envie de faire forcément la meilleure image du monde, mais en tout cas, il faut qu'elle soit en phase. Il faut pas qu'elle trahisse, qu'elle soit trop chic quand la musique n'est pas assez chic, ou qu'elle soit trop cheap quand la musique serait plus chic, ou qu'elle soit trop rétro quand la musique serait moderne, ou qu'elle soit trop...
Et vous faites des briefs? Vous avez fait un brief pour Grand Piano, par exemple? Vous avez dit... Ah oui, et c'était quoi?
C'est un brief, c'est... j'ai dit que la vocation de ce disque était, il y avait une certaine ambition dans la production. En fait, pour moi, un disque, c'est deux choses. C'est d'abord un répertoire des chansons que j'écris à la guitare, puis une production. Et là, on décide, est-ce qu'on met un orchestre symphonique, un groupe de rock. Pour ce disque, j'ai ambitionné une facture un peu plus chic, un peu plus large. J'avais envie d'un très bon musicien dans un très bon studio avec des très bons micros et une compétence. Contrairement aux 10 précédents que j'ai fait un peu seul, pas par manque de moyens, mais par goût pour l'artisanat, le truc fait à la maison. Donc là, je voulais un truc un peu... Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Grand Piano, parce que j'y vois quelque chose d'assez ambitieux, de large, du bois, c'est lourd, c'est vieux. Donc, en gros, mot pour mot, c'est un peu ce que j'ai dû leur dire. Voilà.
Cinquième et dernier choix, Mathieu Bogart.
Alors, best-seller. Donc moi j'aime bien les best-sellers, j'aime bien les tubes. Je suis pas le genre à snober les tubes. Pour moi un livre ou un disque ou un film qui plaît à tout le monde, voilà, qui fait la couve de Télé 7 jours et de Télérama, pour moi c'est le succès ultime. Et donc je ne vais pas nier ce goût pour ça. Donc là je parle d'un livre qui s'appelle Sapiens, qui est un best-seller quand il a des millions de livres vendus. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur une radio qui s'appelle France Culture. Mais c'est l'unique fois de ma vie où j'ai arrêté la voiture pour écouter l'émission, parce qu'il y avait trop de bruit dans la voiture. Et bien, mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc, j'ai retrouvé le passage qu'il avait été lu, ou en tout cas évoqué dans cette émission. Je ne me rappelle plus quelle était l'émission. Alors, Sapiens, c'est un livre, comme son nom l'indique, c'est un livre sur les hommes, mais considéré vraiment comme une espèce parmi d'autres. Considérez un instant la révolution agricole du point de vue du blé. Voici 10 000 ans, le blé n'était qu'une herbe sauvage, parmi tant d'autres, cantonnée dans une petite partie du Moyen-Orient. À peine quelques petits millénaires plus tard, il poussait dans le monde entier. Suivant les critères évolutionnistes de base de la survie et de la reproduction, le blé est devenu l'une des plantes qui a le mieux réussi dans l'histoire de la Terre. Dans des régions comme les grandes plaines d'Amérique du Nord, où ne poussait pas une seule tige de blé voici 10 000 ans, on peut parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans rencontrer aucune autre plante. Les emblavures couvrent autour de 2,25 millions de kilomètres carrés à travers le monde, soit près de 10 fois la superficie de la Grande-Bretagne. Comment, de plante insignifiante, cette herbe est devenue omniprésente? Le blé y parvint en manipulant Homo sapiens à son avantage. Je répète cette phrase parce que c'est la phrase qui m'a fait arrêter ma voiture. On recommence. Le blé y parvint en manipulant Homo sapiens à son avantage. Je continue. Il y a près de 10 000 ans, ce singe menait encore une vie assez confortable de chasse et de cueillette, mais c'est alors qu'il commença à investir toujours plus d'efforts dans la culture du blé. En l'espace de 2 millénaires, les hommes de nombreuses parties du monde ne devaient plus faire grand-chose d'autre, du matin au soir, que prendre soin de leurs plants de blé. Les savants proclamaient jadis que la révolution agricole fut un grand bond en avant pour l'humanité. Ils racontaient une histoire du progrès alimenté par l'énergie du cerveau humain. L'évolution produisait peu à peu des êtres de plus en plus intelligents. Les hommes finirent par être si malins qu'ils purent déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur permirent d'apprivoiser les moutons et de cultiver le blé. Thank you. En gros, le propos de ce que je viens de dire, c'est que si on considère donc la révolution agricole du point de vue du blé, le blé a gagné.
A fait ce qu'il a voulu de l'homme.
En tout cas, le blé est l'espèce qui a le plus joui et profité de la révolution agricole. Donc l'homme fait pousser du blé, mais en fait le blé profite de l'homme que... Voilà. C'est le, voilà. Donc là, ce que j'ai adoré là-dedans, je m'arrête là. Donc ce que j'ai adoré là-dedans, c'est le recul, prendre du recul à ce point-là, de nous comparer à du blé. Et en fait, c'est juste parce que nous sommes qu'une espèce, je ne suis pas du tout croyant, enfin, je me considère vraiment comme un animal, comme une espèce parmi d'autres sur cette terre, sans aucune espèce de...
Hiérarchie.
Et donc, cette vue de l'esprit, de se dire, ah mais en fait, le blé... Enfin bon, vous avez compris de... Enfin, en tout cas, cet angle, je le trouve vraiment brillant et fascinant, et ça remet tellement tout en perspective. Ça nous, enfin, donc j'adore le recul en général, j'adore prendre du recul, j'adore. Et là, j'ai jamais vu quelqu'un qui prenait autant de recul que ça. Voilà. Donc ça m'a.
C'est un livre de Yuval Harari.
Tout à fait. C'est une question.
Je le plaçais parce qu'on ne l'avait pas dit. Ah, pardon, okay. Merci beaucoup Mathieu Bogart d'avoir déballé votre bibliothèque pour nous. Et si on se quittait en musique? Non, en vrai, je sais pas,
je peux faire 30 secondes.
Moi, ça me ferait plaisir. C'est une commande de toute l'équipe du Book Club.
Alors, c'est beaucoup, vous savez que c'est beaucoup, beaucoup plus dur de faire ce que je vais faire là que de jouer faire un concert devant 1000 personnes, vous en avez conscience?
Ah ouais.
Mais je vous le dis.
Ah non, mais je vous crois, mais à 158 milliards, 1000%. Très bien. On peut sortir cette pièce.
Tous dans la salle de bain.
J'en profite pour dire que la prise de son aujourd'hui, là, c'était Benjamin Reyes.
Que je vais faire.
Et à la réalisation, Vivien Demeyer. Et au mixage...
Au mixage, c'est Bruno Mourlan.
Bien sûr, évidemment. On peut retrouver tous les textes évoqués par Mathieu Bogart ainsi que leurs traducteurs ou traductrices quand je ne les ai pas signalés sur la page du Book Club franceculture.fr. Et c'est aussi là qu'on peut écouter la totalité de la collection de nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? De ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire de moi? Je sais pas quoi faire, plus du tout. Mais faut que je m'affaire tout à coup. Tout à coup, je le dois. Il y a le temps qui passe et qui avance. Et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Y a le temps qui passe et qui avance, et ça m'angoisse tellement j'y pense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse?
petites fesses.